Remonter à l'origine dans ce numéro d'Idées, le magazine qui interroge ceux qui pensent le monde. Plus précisément, nous allons nous intéresser au discours d'origine. On le sait, chaque société humaine se soucie de ses origines, les cherche, les raconte, les interprète et souvent les défend. Il n'est pas de culture qui n'ait soulevé la question de ses origines. Mieux, cette question a toujours reçu une réponse, écrit notre invité Pascal Nouvelle, avec lequel nous allons aborder ce thème qui est au cœur de son travail, de l'origine conçue par les mythes à celle expliquée par la science. Nous avons donc le plaisir de vous proposer un nouveau numéro de ce magazine que vous pouvez retrouver, écouter quand vous le souhaitez en balado-diffusion, en vous branchant et en le podcastant sur le site de la radio, www.rfi.fr ou sur votre moteur de recherche préféré. Bonjour Pascal Nouvelle.
Bonjour.
Merci d'être à ce micro. Nous allons parler une heure ensemble pour essayer de comprendre votre travail. Je suis sûr qu'on y parviendra. Vous êtes docteur en biologie et en philosophie, professeur à l'université de Tours. Vous y dirigez le centre d'éthique et de philosophie contemporaine. Et vous nous proposez un livre qui s'intitule Avant toute chose, enquête sur les discours d'origine, un essai publié au CNRS Éditions. Je voudrais d'abord insister sur cette particularité que vous avez sur le plan scientifique. Vous êtes à la fois docteur en biologie et docteur en philosophie. C'est important pour comprendre votre démarche.
Oui, tout à fait. J'ai commencé par faire une thèse de science, de biologie moléculaire, de génétique moléculaire à l'Institut Pasteur. Donc c'était vraiment de la science de manipulation de base. Et par la suite, je m'intéressais à la philosophie, mais par la suite, je me suis vraiment orienté vers la philosophie des sciences d'abord, donc la philosophie tournée vers la réflexion sur ce que font les scientifiques, et puis, par la suite, lorsque j'ai eu un poste, avant d'avoir un poste à Tours, j'ai eu un poste à Montpellier, de professeur de philosophie, et là, j'ai élargi, disons, mon point de vue, et je n'ai pas seulement regarder ce que la science pouvait dire, des origines ou d'autres choses, mais aussi ce que la philosophie en disait depuis bien plus longtemps.
Et pourquoi avez-vous voulu faire ce détour par la philosophie? C'est une démarche intellectuelle intéressante.
Oui, c'est sans doute quelque chose qu'on ne sait pas soi-même au départ. Disons que rétrospectivement, si je devais aujourd'hui me dire pourquoi j'ai fait ce chemin-là, je dirais plutôt que en faisant de la biologie, je posais déjà des questions philosophiques qui se sont révélées progressivement comme devant se développer dans le terreau approprié, c'est-à-dire celui de la philosophie. Mais au moment où je l'ai fait, je pense que c'était un peu différent. Je pense que j'étais plutôt attiré par des généralisations, des questions que je développais au jour le jour dans le laboratoire où je travaillais.
C'est-à-dire que si vous étiez scientifique pur sucre, simplement scientifique, ce qui serait déjà beaucoup, spécialiste en biologie, vous auriez fait un livre sur les origines. Et là, le philosophe que vous êtes aussi fait un livre sur le discours
Absolument.
Des origines.
Oui, oui. La nuance est quand même tout à fait importante. Les scientifiques nous parlent des origines de la vie, des origines de l'univers, des origines des langues humaines, par exemple. Tout ça, ce sont des manière scientifique de parler de l'origine, mais lorsque je parle de discours d'origine, je prends quelque chose de beaucoup plus vaste, qui sont en fait toutes les façons d'en parler. Les façons scientifiques de parler de l'origine sont l'une d'entre elles, mais l'une parmi d'autres. Le mythe est aussi une façon de parler de l'origine, le raisonnement aussi, le raisonnement à partir simplement du bon sens logique, et puis également un certain nombre de conclusions qu'on peut tirer sur la façon dont nous formulons nous-mêmes nos questions. Tout ça, ce sont des discours d'origine. Et donc, si on passe de l'établissement d'une recherche sur les origines, ce que fait la science, à la recherche sur maintenant les manières d'en parler, on élargit considérablement le champ d'investigation.
Il faut préciser d'évidence, Pascal Nouvel, qu'il s'agit ce discours sur les origines d'un phénomène universel.
Oui,
c'est ce que vous dites dès le début.
Oui, absolument.
Toute culture a son discours d'origine.
Ça, c'est une chose qu'on peut constater, qui est factuelle. On découvre dans toutes les sociétés que les anthropologues ont pu examiner, analyser, on découvre des discours d'origine, c'est-à-dire des récits. Le plus souvent mythiques, ceux qui sont présents en plus grand nombre, ce sont des récits mythiques, le plus souvent mythiques, mais donc parfois aussi d'autres natures, mais toujours ces récits visent à nous expliquer, nous dire, nous donner une certaine conception de là d'où nous venons nous-mêmes, et d'où viennent aussi bien sûr les choses qui nous entourent, les choses et les êtres.
Avec une narration. Une histoire.
Alors, dans les mythes, la narration est particulièrement évidente puisque c'est un récit qui va être chargé de donner une réponse à cette question. Le plus connu, certainement, dans notre culture, c'est bien entendu le récit qui figure dans les premières lignes, les premières pages de la Bible. Là, vous avez le récit dit de la Genèse, avec son déroulé en 7 jours. Mais vous en avez, même dans notre culture, un certain nombre d'autres qui sont bien connus aussi. Je pense à la Théogonie d'Hésiode, par exemple. Là aussi, vous avez un récit, une narration, au bout de laquelle on retrouve, notre situation actuelle. C'est-à-dire que la narration vient répondre à la question d'où venons-nous, même si la question n'est pas formulée. La question n'est pas formulée comme telle, mais la réponse est implicitement donnée. Et donc, si on analyse la provenance de ces différents récits, aussi bien la Théogonie d'Hésiode que la Genèse biblique, on trouve qu'en fait, ces récits s'ancrent dans d'autres récits qui les ont précédés et qui avaient la même fonction. Et donc, on trouve ça également même dans des sociétés très éloignées de la société occidentale. Donc c'est quelque chose qui apparaît, qui est une sorte d'invariant anthropologique chez tous les hommes, dans toutes les sociétés, on trouve des tentatives d'explication de l'origine.
Alors on va revenir sur ces récits différents, ces 4 types de récits que vous analysez en profondeur dans ce livre, Pascal Nouvel, mais il faut faire peut-être une distinction, ce que vous faites au début du livre, entre l'origine et le fondement.
Oui.
C'est plus qu'une subtilité.
Oui, alors lorsque on rentre dans la question d'origine, l'une des choses que l'on peut constater, c'est qu'il y a un vocabulaire, disons, de l'origine, le commencement, le fondement, l'origine, le départ, la source, etc. Vous avez tout un ensemble de termes qui sont utilisés de façon quasiment synonyme, et il y a tout de même des distinctions qui peuvent être importantes à faire, comme celle du fondement et de l'origine. Et pour préciser cette distinction, je prends une image traditionnelle en philosophie, même si elle n'a pas été utilisée de la façon dont moi je l'utilise, c'est celle de la maison. Lorsque l'on construit une maison, on peut dire que l'origine de la maison, elle est dans les plans de l'architecte, ou elle est même avant les plans de l'architecte, dans le désir d'une personne de construire cette maison. Et puis, le fondement de la maison, c'est la première, c'est peut-être la dalle de fondation, si la maison comporte une dalle de fondation, qui va constituer le premier élément de l'édifice. Et alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que l'origine, elle est susceptible de disparaître. Elle peut parfaitement disparaître sans laisser de traces. Le désir dont je parlais, ou les plans de l'architecte, ils peuvent parfaitement se perdre, alors que le fondement, lui, le fondement de la maison, tant que la maison sera là, le fondement sera là. Et même si la maison disparaît, il se peut parfaitement que le fondement demeure. Et donc, l'origine, c'est bien ces événements qui ont lieu avant que quelque chose de concret n'apparaisse. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut accéder à cette origine que par le biais de l'imagination. Et c'est vrai même dans les récits scientifiques. Les récits scientifiques sur l'origine trahissent le fait qu'ils sont le produit d'une imagination, c'est-à-dire en réalité autant d'hypothèses sur l'origine. Ça n'est jamais autre chose que des hypothèses, et la raison de ça, c'est que l'origine, elle a toujours disparu. Elle n'est jamais présente sous nos yeux, elle doit être recherchée par l'imagination.
Et c'est ainsi que vous créez, Pascal Nouvel, mine de rien, une nouvelle science qui s'appelle l'originologie.
Je l'ai appelé comme ça parce que c'est en effet une analyse de ces discours, donc un logos sur un discours sur les discours d'origine. C'est un discours sur le discours. C'est là que vous l'évoquiez à l'instant. Il y a une distinction, à mon sens, à faire entre discours d'origine et discours sur les discours d'origine. On peut aussi appeler ça un métadiscours, un discours qui prend une sorte de distance par rapport à d'autres discours qui ont déjà été produits sur la chose dont on parle.
Alors, avant de parler de ces quatre catégories de récits, de récits sur les origines, sur le discours d'origine, il faut noter l'importance de ce discours d'origine dans la constitution d'une culture, d'un peuple.
Oui.
On pourrait dire même d'une nation.
Oui. Le récit d'origine a une fonction structurante pour les groupes sociaux, on le voit bien dans les utilisations qui en sont faites pour justifier, pour légitimer des positions de pouvoir. Par exemple, les situations sans doute dans lesquelles ce caractère du récit d'origine apparaît de la façon la plus flagrante, c'est les situations dans lesquelles vous avez des individus qui se font rédiger des généalogies qui les rattache aux origines. On trouve ça, par exemple, dans l'Égypte antique, vous avez des pharaons qui se font raconter leur propre histoire en faisant apparaître le fait qu'ils sont reliés directement à l'origine des choses. Et ça, c'est une des fonctions donc des récits d'origine. Il y a effectivement une fonction sociale qui dépasse leur fonction simplement épistémologique. Il ne s'agit pas simplement de connaître d'où viennent les choses, il s'agit aussi de justifier un certain ordre social.
Alors, venons-en, Pascal Nouvel, au cœur de votre livre et à cette distinction des discours d'origine et de ces quatre catégories, pas plus, peut-être une cinquième, on y reviendra. D'abord, le récit mythique. Vous avez commencé à en parler à l'instant, où l'on s'aperçoit que dans le récit mythique, la religion, Dieu, les dieux ne sont jamais loin.
Oui. Alors, les récits qui sont produits par les religions sont tous des récits mythiques. Il y a des récits mythiques qui ne sont pas liés de façon évidente à des religions, mais en tout cas l'inverse est vrai, c'est-à-dire que dès lors qu'on a affaire à une religion, on a inhérent à cette religion un certain discours mythique sur les origines, et comme je l'indiquais à l'instant, c'est un discours qui a aussi un rôle de mettre en relation. La religion, c'est ce qui relie les individus, c'est ce qui est censé leur expliquer ce qu'ils ont à faire ensemble. Et donc, dans ce récit religieux sur les origines, le mythe a cette fonction sociale également.
Alors, il faut lire la Genèse dont vous parliez à l'instant aussi. Je rappelle, je vais lire le début, la création du monde. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre était vide et vague, les ténèbres couvraient l'abîme, un vent de Dieu tournoyait sur les eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour.
Oui. Alors là, c'est un exemple tout à fait typique de récit d'origine mythique. Vous avez une succession d'événements qui sont racontés, dont on ne sait pas exactement, il n'est pas précisé, d'où on sait ce qui est affirmé, c'est simplement affirmé. Et en fait, ce qui constitue la légitimité du récit, eh bien, c'est son caractère traditionnel. C'est le fait qu'il a été dit, redit, répété, qu'il a été transmis de génération en génération.
Oui, c'est ça, plus il est lointain, il est solide.
Oui. Par tradition orale d'abord, avant d'être écrit. Donc pendant très longtemps, ce qui est écrit s'est transmis par une tradition orale, et c'est ceci qui en forme la légitimité. Et donc, d'une certaine façon, il y a bien dans ces récits une conformité, de même que les scientifiques parleront de conformité entre un récit et les choses qui ont pu être observées, et bien ici, la conformité, elle se joue entre le récit et les récits qui ont pu être racontés dans le passé. D'où d'ailleurs le fait que on peut ensuite trouver une filiation entre les différents récits mythiques, les récits qui étaient qu'on trouve dans la même région à la même époque, eh bien ont des analogies assez remarquables avec le récit que vous venez de lire, celui de la Genèse.
Alors cette analyse des récits mythiques est la première catégorie que vous distinguez. Donc je le répète, Pascal Nouvel s'appuie aussi cette analyse sur le travail de Mircea Eliade, grand spécialiste des mythes. Hein, vous citez son livre Aspects du mythe, publié en 1988, et je vous cite, hein. Pour Mircea Eliade, la présence multiforme des récits d'origine parmi les cultures est la conséquence d'un trait général de la condition humaine. Elle est à rapprocher de l'opération par laquelle nous donnons sens à ce que nous vivons. Le discours d'origine donne un sens à ce qui est, en fournissant l'idée d'une provenance. Donner un sens.
C'est ça. Alors Mircea Eliade fait partie de ceux qui ont beaucoup travaillé avec d'ailleurs une impulsion disons phénoménologique, qui ont beaucoup travaillé sur les mythes, et il a analysé les différents mythes d'origine en essayant de repérer à l'intérieur uniquement des mythes, hein, de repérer des formes typiques, des types de mythes d'origine. Et il en repère effectivement un certain nombre, mais la conclusion qu'il en tire, la conclusion générale, c'est qu'en effet, au-delà du lien social dont on parlait à l'instant, il y a une autre fonction essentielle du mythe, qui est de donner un sens aux choses. D'ailleurs, les deux vont ensemble. Hein. Le sens est ce qui justifie une certaine structure sociale, et inversement, la structure sociale est le reflet du sens que les choses ont et qui est donné dans le mythe.
Alors ça, c'est le récit mythique, hein, du discours d'origine. C'est la première catégorie que vous établissez, Pascal Nouvel. La deuxième, c'est la catégorie des récits rationnels. Et là, on voit apparaître le philosophe.
Oui. C'est ça. Le début de la philosophie, en fait, c'est une interrogation sur l'origine. C'est une interrogation critique sur les récits d'origine, puisque on le disait à l'instant, les récits qui ont précédé l'apparition de discours rationnels sont des récits qui ont certaines fonctions pour le sens des choses ou pour la société. Il y a tout de même des motifs pour critiquer ces récits du point de vue de leur véracité. Et c'est de cette façon que naît la philosophie avec Thalès, le premier philosophe, ou en tout cas le premier philosophe dont nous ayons des traces. Hein, nous avons des traces de ce qu'il a écrit et surtout des commentaires sur ce qu'il a écrit par ses successeurs. Et Aristote dit déjà, dans l'Antiquité, que le premier philosophe, c'est non pas Platon, non pas d'autres philosophes qu'il peut citer très abondamment, comme Empédocle, mais Thalès. Alors pourquoi Thalès ? Parce que Thalès est celui qui a critiqué donc les discours mythiques sur l'origine en disant qu'il ne fallait pas procéder de la façon dont procédaient ces discours. Il ne fallait pas procéder en expliquant, en faisant un récit sur d'où viennent les choses, prétendant expliquer d'où viennent les choses à travers un récit, il fallait chercher la nature des choses. C'est la nature des choses qui devait nous conduire à ce qu'elles sont dans leur essence. Et pour lui, cette nature, il dit non seulement qu'il faut chercher la nature des choses, mais il est le premier en fait à proposer une nature qu'il considère comme rationnelle pour toutes les choses, et cette nature pour lui c'est l'eau. C'est-à-dire que toutes les choses dérivent de l'eau. Alors, ça peut paraître un petit peu farfelu, hein, comme proposition, tout serait eau. Mais en réalité, comme Nietzsche l'a fait remarquer déjà il y a plus d'un siècle, un siècle et demi, lorsqu'on dit tout est eau, ce qu'on veut dire, ce que veut dire Thalès essentiellement, c'est que tout est un. Il y a une unité derrière la diversité des choses. Et ça, c'est le premier moment du raisonnement sur l'origine, c'est-à-dire de l'apparition d'un autre type de récit ou de discours d'origine qui est un discours, cette fois, rationnel et qui rompt avec les discours précédents, qui rompt tout en restant sur la même problématique. Je pense que ce qui est important, c'est ça, c'est que on garde toujours en vue la question de l'origine. Simplement, on y répond d'une façon entièrement différente. On ne va plus y répondre en imaginant une histoire, mais en imaginant une essence des choses, une ontologie, une essence d'où proviendraient les choses qui existent.
Alors, il y a une succession de philosophes qui vont, eux aussi, apporter leur pierre à la réflexion. Oui. Anaximandre, par exemple, Héraclite, la liste est longue, Parménide.
Oui, à partir de là, à partir de Thalès...
Avant Socrate et Platon. Hein.
Oui, donc dans la période qu'on appelle le plus souvent la période pré-socratique, en effet, avant Platon, hein, dans toute cette période, donc jusqu'à Platon, puis à Aristote, et sur la lancée de... ce qui a été proposé par Thalès, on voit se succéder des discours qui semblent se répondre l'un à l'autre. Alors, les deux premiers, mais qui sont l'exemple de tout ce qui va suivre, c'est en effet Thalès et sa proposition que je viens de rappeler sur l'eau. Et puis, son disciple immédiat, Anaximandre, qui est aussi d'ailleurs le neveu de Thalès, et qui dit non, ça n'est pas possible, ça ne peut pas être l'eau. Non pas en disant ça doit être un autre élément, mais en disant on ne peut pas expliquer ce qui est par quelque chose qui est également. On ne peut pas, pour prendre des termes plus modernes, expliquer un étang par un autre étang. Si vous expliquez une chose par une autre chose, vous aurez toujours la charge d'expliquer cette chose que vous avez mise dans votre raisonnement, et donc vous n'avez en réalité rien expliqué. C'est déjà la remarque qu'Anaximandre fait à donc son oncle et prédécesseur Thalès, et il lui dit « Non, il n'est pas possible que les choses dérivent de l'eau, ni de l'air, ni de la terre, ni de quoi que ce soit, ni de quoi que ce soit d'étang. Les choses ne peuvent dériver que de quelque chose qui lui-même n'est pas. » Et donc quelque chose qui n'a pas d'existence matérielle. Et cette chose, il l'appelle un apéron. L'apéron, alors on a beaucoup de mal à savoir ce qu'il voulait dire exactement par là, mais ce qu'on peut faire, c'est se référer à l'étymologie. Péron, c'est la limite en grec. Apéron, c'est donc ce qui n'a pas de limite. Alors ça peut être traduit par l'infini, l'illimité, c'est là que les difficultés se présentent, mais ce qui est important pour Anaximandre, c'est que cette source des choses n'est pas un être matériel et donc limité dans l'espace.
Alors, qu'est-ce qui change, Pascal Nouvel, avec les socratiques, avec Platon, alors, Socrate
Platon hérite de tous ces débats. Là, on passe assez vite. J'ai décrit les deux premières étapes, hein, Thalès et Anaximandre. Mais donc, toute une série d'autres étapes qui reprennent en fait constamment le même problème en allant soit du côté de Thalès, soit du côté d'Anaximandre. Et la particularité de Platon, c'est de sortir de ces impasses en trouvant une sorte de conciliation habile avec une théorie qui peut nous sembler, là aussi, un petit peu lointaine et exotique, mais qui pourtant a joué un très grand rôle dans notre culture, à travers la réinterprétation surtout que va en donner le successeur de Platon, qui est Aristote. Et donc cette théorie, elle consiste à dire, eh bien, il y a quelque chose qui ne change pas. Donc ça, c'est la thèse, si on veut, Anaximandre, hein, c'est la thèse de ceux qui voient des choses constantes, immobiles, éternelles, et puis il y a, à l'intérieur de ce quelque chose qui ne change pas, quelque chose qui change constamment. Il y a les apparences, qui est notre monde dans lequel nous sommes, et puis il y a le monde des idées. Voilà la thèse platonicienne qui va se retrouver, alors largement modifié, mais tout de même ces grandes lignes sont conservées chez Aristote, et Aristote va dire il y a dans tous les êtres une cause finale qui les porte à être ce qu'ils sont. Ils deviennent ce qu'ils sont parce qu'ils sont portés par ce que lui appelle la cause finale. Selon lui, c'est quelque chose qui n'a pas été vu par ses prédécesseurs, ni même par Platon. Et donc cette cause finale met en forme la matière qui nous constitue ensuite. Et c'est ceci, selon lui, qui explique la diversité des choses qui nous entourent. Et donc l'essentiel pour lui, c'est d'introduire cette notion de cause finale. Et on peut dire que c'est l'aboutissement de ce processus qui commence donc à Thalès, qui se termine en un sens avec Aristote, et je dis se termine parce que les choses vont rester en l'état, surtout pour l'explication qui est certainement la plus difficile pour les penseurs de cette époque, l'explication des êtres vivants. Pour comprendre que les êtres vivants existent, eh bien, il faut faire appel soit à une théorie qui est celle de Platon, hein. Il y a des idées des choses, une idée du cheval, une sorte de moule, si vous voulez, du cheval, et puis les chevaux concrets sont construits à partir de ce moule, ou bien on fait appel à une idée comme celle d'Aristote, c'est-à-dire il y a dans chaque germe de cheval une poussée qu'il appelle cause finale, et qui l'amène à ordonner la matière conformément à ce qu'est un cheval.
C'est d'autant plus intéressant qu'on ne va pas sortir de cette réflexion, vous le dites, Pascal Nouvel, Heidegger, avec son étang et son l'existence, oui. C'est ça.
Il y reviendra.
Et oui.
Ce que fera Heidegger, c'est de revenir à ses discours, à ses débats pré-platonicien ou pré-socratique, et a montré, et il montrera par la même occasion, que ces débats, loin d'être périmés, comme toute une tradition a tenté tout à fait affirmé, ces débats sont au cœur de ce que la philosophie a à penser. Donc il y a en effet un retour au pré-socratique qui va intervenir bien plus tard, hein, à l'époque où les discours qui vont tendre à se substituer aux discours d'origine seront cette fois des discours non plus rationnels mais phénoménologiques.
Ceux qui pensent le monde.
Alors ces récits rationnels sur les discours d'origine tournent autour de la question d'un philosophe qui était plus tardif évidemment que les Grecs, c'est Leibniz, qui est au cœur de votre livre aussi, Pascal Nouvel, qui a posé cette question célèbre que quasiment tous les étudiants en philosophie de terminale ont eu à affronter. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?
Oui, alors Leibniz est celui qui formule pour la première fois cette question, dont on peut dire qu'elle est la question sous-jacente à tous ces mythes et toutes ces explications, donc mythes ou explications rationnelles. Derrière ces tentatives, il y a en fait une question qui, aussi curieux que cela puisse paraître, n'a jamais été formulée en propres termes avant Leibniz. Leibniz est le premier.
On tournait autour, mais elle n'avait jamais été formulée aussi précisément.
Elle était toujours là, mais comme une ombre. Elle était là, mais pas explicitement formulée comme question. Et donc Leibniz est le premier à dire, derrière ces interrogations, ce qui se joue, c'est une question fondamentale qui est la question de la métaphysique. Pour lui, il l'érige au rang de question première de la métaphysique, qui est donc, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Et puis, il ne faut pas oublier aussi une deuxième partie de la question, puisqu'il continue sa question.
On l'oublie souvent,
oui. Oui, en disant pourquoi les choses sont-elles comme ceci et non pas autrement. Donc, pourquoi y a-t-il quelque chose et pourquoi les choses sont-elles de cette forme-là? Après tout, on pourrait imaginer toutes sortes de mondes différents du nôtre. Ce seraient aussi des mondes dans lesquels on pourrait s'interroger sur la raison pour laquelle ils existent, mais ils auraient une structure tout à fait différente du nôtre. Donc, il y a ces deux questions chez Leibniz. Et en effet, ce sont les questions auxquelles implicitement répondaient toutes ces tentatives de qu'elles soient produites dans le contexte du mythe ou dans des contextes plus maîtrisés sur le plan des raisonnements, comme les récits rationnels. Ce sont des tentatives pour donc y répondre.
Alors, première catégorie, récits mythiques sur les origines, récits rationnels sur les origines. Troisième catégorie, les récits scientifiques.
Oui, alors là, il y a quelque chose qu'il faut tout de suite remarquer, à mon avis, qui est extrêmement important. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, mon parcours commence par les sciences, et donc je suis sensible aussi au discours sur la philosophie des sciences, sur l'histoire des sciences, et très souvent, les histoires des sciences font commencer la science avec Copernic, Galilée, Newton. C'est ça la triade classique, hein, disons les trois grandes contributions qui vont amener à constituer une culture scientifique. Eh bien, si on regarde ce qui se dit à cette époque, à l'époque de Copernic, mais aussi de Galilée, de Newton, sur les origines, ce qu'on trouve, et c'est ça qui est frappant, c'est qu'il n'y a rien de nouveau. Il n'y a absolument aucun discours d'origine qui soit proposé par ces auteurs. Au contraire, si vous prenez Newton, il dit très explicitement dans son grand livre sur la philosophie mathématique, il dit très explicitement que si on veut savoir, alors il vient de décrire ce qu'est la force d'attraction et la manière dont elle régit les mouvements entre les astres, entre les planètes, les corps matériels, et puis aussi bien sûr les corps qui sont présents à la surface de la Terre. Il vient de faire ça et il se pose la question de savoir d'où tout cela vient. D'où tout cela vient-il? Et là, eh bien, il renvoie très banalement au mythe de la religion. Il dit, pour savoir d'où tout cela vient, eh bien, il faut interroger les théologiens, il faut interroger les discours traditionnels. Autrement dit, il n'y a pas de discours spécifique qui soit lié à cette culture scientifique à ses commencements.
C'est pour ça, Pascal Nouvelle, que dans cette catégorie, cette troisième catégorie des récits scientifiques sur l'origine, sur le discours du monde, vous faites commencer avec Darwin.
Absolument, c'est avec Darwin.
Donc le 19e siècle.
Au 19e siècle, en 1859, hein, plus précisément, si on veut une date de publication, hein, la publication de l'origine des espèces, hein, le mot origine ici n'est pas anodin, j'estime qu'il est particulièrement représentatif d'une modification. Il l'est parce que 2 ans auparavant est mort un philosophe, Auguste Comte, qui expliquait que la science ne devait pas parler de l'origine. Devait même s'interdire de le faire.
Il a voulu régler quelques comptes, hein, Auguste Comte.
Disons, sur la question de l'origine, il est celui qui a, en quelque sorte, expliqué, qui a interdit, si vous voulez, cette question à la science, en expliquant que l'esprit positif était celui qui comprenait qu'il ne pouvait pas atteindre la question de l'origine, et ceci pour une raison qui est très facile à comprendre, hein, dans sa logique à lui. Pour lui, il n'y a de science que de choses que des choses qui se répètent. Or, l'origine, par définition, n'a eu lieu qu'une fois, on ne peut donc pas la répéter. Et sur le thème de l'origine, par conséquent, il ne peut y avoir que des hypothèses, et donc pas de science, pas de savoir positif. Et à partir de là, pour lui, il faut purement et simplement barrer la question de l'origine des préoccupations des scientifiques. Et donc, 2 ans après sa mort, c'est là que je vois une sorte de symbole, est publié le premier livre qui porte en plus comme mention le mot origine dans son titre, hein, Origine des espèces, et qui se présente comme un livre expliquant la diversité des espèces, plutôt d'ailleurs que l'origine de la vie. Hein. C'est pas la question de Darwin que de dire d'où vient la vie, c'est une question qu'il laisse à son prédécesseur Lamarck. Lamarck, dans la philosophie zoologique, parle beaucoup de l'origine de la vie, au sens de la transition entre les choses simplement inertes, la matière, et puis les êtres vivants. Mais Darwin, pas du tout. Darwin, lui, ce qui l'intéresse, c'est comment une espèce devient deux espèces. Comment se diversifient les espèces. Comment une espèce, par exemple, de singe devient une espèce humaine, d'un côté, et puis de l'autre côté, le chimpanzé et le bonobo. Voilà, ça, ce sont des questions darwiniennes, mais pas les questions qui ont trait au point de savoir où la vie a commencé, à quel moment elle est apparue. Et donc ça, c'est la naissance, en fait, d'un nouveau type de discours. Des discours d'origine de type scientifique. Et alors, je crois que c'est important, donc je le disais, pour l'histoire des sciences, parce que l'histoire des sciences a tendance à se caler, si on peut dire, à prendre comme référence l'histoire de la physique, alors que si on prend comme thème la question des origines, eh bien on voit bien que c'est pas la physique qu'il faut suivre, c'est l'histoire de la biologie. Et plus particulièrement, l'histoire de la biologie au moment où elle acquiert sa première grande théorie englobante, qui est la théorie de l'évolution avec Darwin.
Venons-en à la quatrième catégorie, qui est plus contemporaine.
Oui, qui est pratiquement, contemporaine, puisque...
C'est le récit phénoménologique.
Oui, mais Husserl naît en 1859. Alors, c'est une coïncidence, mais enfin, 1859, donc l'année de la publication de l'Origine des espèces. Alors, il y a quand même une sorte de passage de relais, si on peut dire, hein, entre les deux. Et en effet, Husserl va être celui qui va reposer. Alors, il faut préciser que Husserl n'a pas du tout une culture biologique. Et donc, il ne considère absolument pas que Darwin a ouvert la voie à un nouveau type de discours d'origine. Lui, Husserl, ce qu'il voit, c'est uniquement les mathématiques et la physique. Pour lui, de ce point de vue-là, il a une conception tout à fait classique de la science. La science, pour lui, c'est la physique et c'est plus précisément la physique mathématique. Or, il en vient au constat que je faisais moi-même à l'instant, c'est-à-dire que les physiciens, les mathématiciens de l'époque classique n'ont pas posé la question de l'origine. Et que c'est donc un manque, c'est donc quelque chose qui manquera toujours à la science. C'est quelque chose que la science doit affronter, selon lui, si elle veut atteindre la place qui lui revient dans la culture. C'est-à-dire, selon lui, on ne peut... Un savoir ne peut s'ancrer véritablement dans la culture que si va jusqu'à parler de l'origine. Tant qu'il ne peut pas préciser l'origine des choses, il reste quelque chose de superficiel.
Donc c'est la particularité de la phénoménologie, c'est-à-dire aller à la source des choses.
Oui, la phénoménologie qui va apparaître... Je dis que Husserl est né en 1859, donc... au moment de la publication du livre de Darwin, mais bien sûr, ce n'est pas à ce moment-là qu'il développe sa thèse, et en réalité, pendant un long moment, il s'oriente plutôt vers la philosophie des mathématiques. Et c'est en 1900 puis 1901, qu'il publie le premier livre qui va constituer le point de départ d'une nouvelle tradition au sein de la philosophie, le livre d'ouverture de la phénoménologie, qu'il appelle lui-même d'ailleurs un livre de percée, et ce livre s'intitule « Les recherches logiques ». Dans ce livre, il pose précisément à neuf, pour ainsi dire, la question de l'origine. Et pour lui, c'est la question qui donc a été omise par la science, et c'est comme ça qu'il explique la situation de crise dans laquelle se trouvent les sciences de son époque. Et il ne pense pas, je le disais, du tout à la biologie, il pense aux mathématiques, il pense à la physique, il pense éventuellement à d'autres sciences, mais qu'il voit comme annexes de la physique, comme la chimie. Ces sciences sont effectivement en crise à ce moment-là, bon, crise du modèle classique en physique, crise des fondements dans les mathématiques, et Pour lui, c'est en réponse à cette crise qu'il faut élaborer un questionnement plus approfondi de l'origine. Et c'est ça donc qui va amener à construire, à ouvrir ce nouveau type de discours. Discours qui se veut en rupture avec les précédents, et notamment avec les discours scientifiques, mais en rupture, mais en même temps qui se veut à leur source, à leur fondement.
Hein, c'est un, oui, il s'agit discours, de retourner au fondement des choses.
Voilà, hein, c'est, ça. C'est un discours qui est censé offrir les bases que le discours scientifique ne se procure pas à lui-même. Voilà, le discours scientifique manque de d'apercevoir ce que sont les fondements de ses propres méthodes, et c'est ça que la phénoménologie est censée apporter.
Alors c'est ainsi donc, Pascal Nouvel, que vous établissez ces quatre catégories de récits sur l'origine: les récits mythiques, les récits rationnels, les récits scientifiques et les récits phénoménologiques, qui sont quatre catégories bien précises. Et je souriais en disant qu'il y en avait peut-être une cinquième, c'est celle que vous dites là en ce moment, c'est ce nouveau regard.
Oui, alors le.
Et vous posez la question à la fin.
En effet, je pose la question de savoir si il y a quatre discours. Bon, il y a quatre discours.
Parce que
qui
c'est
ont
quatre,
été
c'est simplement quatre.
Hein. Oui. Et bon, donc on pourrait dire, il y en a quatre identifiés, mais après tout, d'autres peuvent venir par la suite. Hein. Ça n'est que les quatre qui ont été développés jusqu'ici. Et qu'est-ce qui empêche le futur de nous faire découvrir d'autres discours d'origine? Il y a deux arguments qui me paraissent, peut-être trois. Hein. Enfin, il y a un certain nombre d'arguments qui me paraissent plaider en faveur du fait qu'il n'y ait que quatre discours d'origine. Le premier argument, c'est l'argument qui passe par la structure de chacun de ces discours. Ce que j'appelle la structure, c'est les éléments qui indépendamment de la validité des discours eux-mêmes, c'est les éléments qui constituent la logique interne du discours.
L'articulation.
Voilà. Ouais. Et si on regarde les discours mythiques, donc les premiers d'entre eux, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'ils sont tous descendants. Descendant, ça signifie qu'il y a toujours une intention première qui explique l'ordre des choses. Les choses se sont ordonnées de telle façon parce que quelqu'un l'a voulu ou parce que une entité quelconque l'a voulu. Il y a une logique qui est donc une logique descendante. Si on regarde les récits rationnels, eh bien on s'aperçoit qu'ils ont une structure double, c'est-à-dire à la fois montante et descendante. Ils sont montants par certains côtés, c'est le côté que repère Thalès, hein, on prend des choses simples et on va vers des choses plus complexes, mais ils sont aussi descendants, et c'est le côté que repère notamment Platon puis Aristote. Aristote avec la cause finale, Platon avec le monde des idées. Il y a des idées ou une cause finale qui régit la façon dont les choses doivent s'ordonner. Donc, montant et descendant. Si on prend les discours scientifiques sur l'origine, ils sont purement montants. C'est leur caractéristique, c'est leur spécificité. Les discours de Darwin sur la vie, par exemple, sur la diversification des espèces que j'évoquais à l'instant, c'est un discours montant au sens où vous partez du plus simple et vous allez vers le plus complexe. Vous expliquez le plus complexe par le plus simple. Et si il y a du plus complexe, c'est parce que le plus simple a eu une histoire. Et donc le plus complexe, c'est le plus simple, enrichi, si on peut dire, de son histoire. Histoire conçue à l'échelle de milliers de générations hein, successives. Bon, donc le discours ici est montant. Et si on prend maintenant les discours d'origine de type phénoménologique, eh bien ils sont ni l'un ni l'autre. Ils ne sont ni montants ni descendants, et c'est ça leur particularité. Ils partent de la conscience humaine elle-même, capable de formuler par elle-même des questions. Par exemple, la question de l'origine. Et donc, dès lors que vous avez des discours qui sont les uns montants, les autres descendants, les autres montants et descendants, et les autres ni l'un ni l'autre, eh bien on voit pas très bien ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme récit d'origine. La deuxième raison, alors bon, la toute première raison, c'est que tout simplement il n'y avait pas de candidat ou pas de discours qui ne rentrait pas dans une de ces catégories. La deuxième, c'est celle que je viens de dire. Et puis la troisième raison, C'est que on trouve une similitude qui m'a beaucoup frappé tout au long de cette enquête entre ces discours d'origine et puis une synthèse qui a été proposée par Philippe Descola dans son analyse magistrale des cultures.
Sur la typologie humaines. Des cultures humaines, c'est
voilà,
ça.
Philippe Descola a publié en 2005, je crois, un livre intitulé « Par-delà nature et culture » où il propose un tableau d'ensemble des cultures humaines et ce tableau comporte 4 entrées qui sont définies à partir de 2 référence ou 2 éléments, 2 concepts de référence, d'un côté l'intériorité et de l'autre côté la physicalité. Et à partir de ces des variations entre ces deux paramètres, eh bien il fait apparaître les 4 types de cultures qu'il a nommées, si je
alors
me souviens bien.
Totémique, analogique, animiste et naturaliste.
Oui, c'est ça, voilà. Donc il a 4 catégorie dont on peut se demander, évidemment, lorsqu'on arrive au terme d'une enquête où on a identifié 4 types de discours d'origine, s'il n'y a pas un lien entre les deux. Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre les manières de parler de l'origine et les ontologies? Ça ne serait pas absurde, puisqu'au fond, une ontologie, c'est une façon de se rapporter à la nature, et donc il serait assez logique qu'elle soit connectée avec un discours d'origine. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de creuser, hein, comme j'ai essayé de voir où pouvait se situer le lien. Je crois que je montre comment se fait la transition, et comment donc on passe de l'un à l'autre. Et donc, c'est un troisième argument qui plaide en faveur des ce que j'appelle de la complétude du catalogue, c'est-à-dire est-ce que le catalogue des 4 discours, des 4 types de discours d'origine est complet ou non. Le fait que on trouve cette correspondance avec l'analyse qui pourtant emprunte des voies complètement différentes, hein, c'est ça qui est frappant, c'est qu'on a, je n'ai pas du tout au départ repris des analyses ou des types de même de raisonnement qui sont ceux de Descola. C'est vraiment à l'arrivée que les choses semblent s'emboîter. Et donc ça, c'est un argument supplémentaire pour dire il y a 4 discours d'origine. Et non pas 5, 6 ou davantage. Alors, on pourrait s'arrêter pour évidemment envisager une critique possible en disant, mais enfin, au fond, ce que vous faites, vous, ce que vous présentez là, est-ce que ça n'est pas un cinquième type de discours d'origine, puisque ça n'est aucun des discours qui ont déjà été produits sur l'origine. Là, je pense qu'il faut distinguer, je le disais rapidement tout à l'heure, entre discours d'origine et discours sur les discours d'origine, entre discours et métadiscours. Ce que je propose, c'est un discours de ce type-là, un métadiscours, mais ça n'est pas un discours d'origine, il ne rentre pas directement dans les catégories qui ont été analysées.
Merci Pascal Nouvel. On a bien compris que votre livre était passionnant et que votre raisonnement est absolument implacable, si j'ose dire, et je salue la qualité de votre plan, de la structure de votre livre, qui est d'une clarté saisissante. C'est peut-être le scientifique qui a fait cela, qui a réalisé cela. En tout cas, votre livre est absolument passionnant. Il s'intitule « Avant toute chose, enquête sur le discours d'origine ». Il est publié au CNRS Éditions.
Merci à vous.
Idée, un magazine réalisé évidemment par Vanessa Horvensky. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger ce magazine et les autres d'ailleurs sur le site de la radio www.rfi.fr. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité et dimanche pour de nouvelles idées. Donc dans un instant, un point sur l'actualité sur RFI.